Le Joint, c'est effectivement un journal, un quotidien. Tout se compose, se décompose, se recompose autour notamment d'un fait divers, mais qui est devenu un moment d'histoire contemporaine, qui est cette armée saint-lyonnaise de libération et son compagnonnage avec Patricia Hearst, fille du mania notamment de la presse. Qu'en fait Gatti par rapport à ça? Parce que visiblement, comme à son habitude, en tout cas, il y a beaucoup de matériaux qui sont amenés dans cette pièce et c'est parfois assez délicat de se frayer un chemin.
Il y a deux choses, hein. Il y a une réflexion sur les mouvements révolutionnaires, sur la révolution, sur le militantisme, avec la question pourquoi finalement ça a quand même échoué. Il dit pas que ça a toujours échoué, mais pourquoi jusqu'à maintenant ça a échoué. Donc faut y réfléchir pour faire autrement. Et puis il y a une réflexion sur la presse. Il a quand même été journaliste, prix Albert Londres. Il a travaillé tout ça avec deux journalistes en fait. Et donc il y a toute la réflexion sur la presse. Gatti, c'est quelqu'un qui voit jamais, qui veut jamais simplifier la réalité, qui veut toujours la prendre dans sa complexité. Du point de vue de la presse, eh ben chaque journal va dire autre chose. Chaque journal va raconter autrement une histoire. C'est quoi la vraie histoire? Où est la vérité? On ne sait jamais. Et en fait, c'est un puzzle fait de toutes ces versions qui sont dites dans les journaux. Avec en plus quelque chose qui est assez beau, c'est-à-dire qu'il s'occupe des personnages qui sont dans les articles. On dit au début les mots qu'on nous prête, donc c'est pas leurs mots, c'est les mots qu'on leur donne. Et c'est vrai que on tue quelqu'un plus sûrement dans un journal qu'avec un fusil. On peut penser aujourd'hui à des choses comme l'affaire Outreau, l'affaire Grégory, enfin, puis il y en a des multitudes. Où tout à coup, simplement parce qu'il faut vendre du papier et du journal, tout le monde se met à écrire, et la personne qui est derrière, elle est... voilà. Donc il y a aussi une large place qui est faite à ces personnages qui sont dans le journal et qui se demandent ce qu'on fait d'eux, ce qu'ils deviennent, quoi.
Alors, des personnages sans doute en quête d'auteur, ou tout du moins d'une certaine véracité les concernant. Si on revient à Londres, ce grand journaliste lui disait que le journalisme, en tout cas d'investigation, comme il le concevait, c'était de remuer la plume dans la plaie. Alors, il y avait une certaine manière de retourner un petit peu les mêmes questions que fait aussi Gatti, en proposant une forme de récit peut-être choral autour de cette affaire Patricia Hearst. Alors, qu'en était-il justement pour trouver peut-être le juste statut d'incarnation de ces personnages sortis de leur rubrique, la commentant et l'histoire en elle-même? Parce qu'évidemment... On parlera du dispositif scénique, mais il y a déjà des niveaux de langage qui sont assez différents aussi.
Alors là, c'est dur de répondre vite, parce que c'est tout le temps de répétition pour débroussailler ça. Disons que pour le travail, la première chose sur l'écriture de Gatti, c'est d'attraper le rythme. Il y a un rythme au départ, donc on arrive assez vite à attraper les choses en allant très vite, en fait. Très vite et très fort. Puis ensuite, il faut essayer de faire respirer ça. Donc, et toute la difficulté, c'est de faire respirer, c'est de ralentir. Alors, en ralentissant, on se met à découvrir plus de finesse à l'intérieur, plus de choses à l'intérieur. Mais la première chose, c'est vraiment la mécanique qui est écrite. C'est là que c'est vraiment du théâtre. C'est comme Molière, comme Marivaux. C'est vraiment quelque chose qui est construit comme une horloge, quoi.
Cette horloge, c'est cette mécanique de l'écriture qui se dévoile en direct, in vivo, sur le plateau. On la retrouve avec cette dépêche de presse, ce travail choral avec trois comédiens, deux comédiennes et un comédien. Qu'est-ce qu'il en était justement par rapport à cette dépêche qui dépasse peut-être de son cadre soi-disant de pseudo-objectivité pour donner peut-être autre chose, à la fois un commentaire, sa matière elle-même, déjà pour poser simplement la situation, puis aussi en termes évidemment rythmiques, hein, on a l'impression d'entendre les paroles de Peter Handke qui parlait de cette chevauchée sur le lac de Constance, c'est-à-dire qu'il faut aller très vite puisque la glace est très fine, mais en même temps avoir un certain nombre d'appuis pour ne pas non plus adopter une politique un petit peu de gribouille comme ça. Alors qu'est-ce qu'il en était par rapport à ce moment spécifique?
Il y a plusieurs choses. D'abord, il y a une première chose, c'est qu'il faut faire rentrer les spectateurs tout le temps dans une logique de journal qui n'est pas la logique psychologique qu'on a au théâtre la plus habituelle. Il n'y a pas que ça, mais qui n'est pas celle à laquelle on est plus habitué. Donc il faut tout de suite faire comprendre aux spectateurs qu'on est dans un journal. Les personnages, ils sont à plat sur la page. Et puis quand une dépêche arrive, c'est une dépêche. Il faut raconter ce... Alors à l'époque, c'était des télex. Alors ça arrivait par télex, donc il faut raconter ce télex. Donc les comédiens, simplement, en bougeant, ils racontent ce télex. Ce qui se passe, c'est que c'est rythmé comme ça aussi dans l'écriture. C'est-à-dire que c'est... tout à coup, c'est écrit en vers libre, alors que le reste n'est pas écrit en vers. De façon très saccadée. Donc on a vraiment une écriture qui est... qui est celle-là. En plus, il y a une autre chose qui se passe, c'est qu'on est en 75. Même pour les gens qui étaient contre le Vietnam, qui étaient contre l'Amérique d'une certaine façon, l'Amérique c'est quelque chose de fascinant. Et même pour Gatti et les gens qui sont autour de lui, l'Amérique c'est fascinant. Donc tout à coup, ces personnages qui arrivent d'Amérique font vraiment un show. Donc il y a tout un spectacle parce qu'il n'y a pas juste le Telex, il y a un match de boxe, il y a un combat de boxe, il y a 36 000 choses. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils arrivent de l'Amérique, ils font leur espèce de show qui fascine tout le monde. Et les autres là qui sont restés en France dans leur journal ont l'air d'être d'acteurs ringards plantés là. Ils disent, voilà, on va se faire piquer la place dans le journal par ceux qui viennent de l'Amérique et qui font le show, sont américaines. Donc il y a aussi ça qui est induit dans l'écriture de Gatti. Juste après, un journaliste vient, il va parler de ce que c'est qu'une dépêche, disant que voilà, dans le journal, ce qui arrive en fait, c'est des dépêches qui font, si on les met bout à bout, ça fait un ruban de 3 mètres. Il faut décrypter tout ça, parce que la dépêche, c'est ce qu'on a bien voulu nous dire, c'est-à-dire les milieux officiels, toutes les personnes qui ont communiqué, et que le travail du journaliste là derrière, c'est de casser le sens qu'on essaye d'imposer pour essayer de trouver autre chose. Mais quoi ?
Alors justement, cette interrogation, elle est initialement, elle ouvre la pièce. Qu'est-ce que le journaliste, avec deux journalistes, l'un de Paris Match et puis l'autre de Libération. Et celui de Paris Match évoque, enfin les deux sont incarnés par des comédiennes, mais évoque d'abord ces mots valises que l'on porte avec soi et qu'on répand et qu'on prend avec soi de par le monde, en évoquant brièvement, disons, le destin de ce navire qui s'appelait le Théodore Herzl, qui a été arraisonné par les forces britanniques. Alors là, on retrouve évidemment le départ vers cette terre promise, mais en même temps Herzl, qui on l'oublie souvent, avant d'être le père putatif ou supposé du sionisme, a été journaliste. Lorsqu'il est arrivé à Paris à la fin du 19e siècle, la première personne qu'il voulait rencontrer, c'était Édouard Drumont, avant qu'il écrive La France juive, mais c'était le journaliste à l'époque qu'il fallait rencontrer pour pouvoir rentrer dans les gazettes et dans les quotidiens. Qu'est-ce qu'il en était justement sur ce côté, je dirais, très, très poétique de cette parole du journaliste au départ avec cette valise ? Qu'est-ce que vous en avez retour ? Parce que je ne dis pas que c'est une image mémotechnique qu'on retrouve dans plusieurs de vos créations, mais en tout cas, il y avait un côté, voilà, on se balade avec un baluchon de mots, et qu'est-ce que vous en avez retiré ?
Alors d'abord, juste un commentaire sur Herzl d'abord. Ouais. Effectivement, Herzl, il disait, il faut aller en Palestine. Pourquoi ? Parce que là-bas, il y a les Arabes et avec eux, on peut s'entendre. Ce qui n'a rien à voir avec le sionisme d'aujourd'hui. C'est-à-dire que le mot a été détourné. Et par exemple, le professeur Leibovitz disait, être sioniste, c'est refuser de servir dans les territoires occupés. Pourquoi ? Parce que c'est vouloir avoir un endroit où on est responsable, un État où on est responsable. Et être responsable, c'est refuser de servir dans les territoires occupés. Alors là, avec ce qui se passe en ce moment, ça me paraissait important de rappeler ça. Donc il doit se retourner dans sa tombe, le pauvre. Je pense que, je sais pas exactement comment ça s'est écrit, mais ce que je sais, c'est que pour avoir parlé avec Marc Kravets, d'autres journalistes qui étaient là quand on a joué à Paris, il leur a posé la question, un journaliste c'est quoi ? Et tout de suite, Pierre Geoffroy a dit, voilà, c'est cette valise. À mon avis, il a raconté son histoire. Donc cette histoire de voyage, voilà, on va chercher, on va... Comment il a traversé tout ça. Le deuxième journaliste répond à fauteuil. Marc Kravets n'avait pas dit un fauteuil, il avait dit un stylo, une machine à écrire. Gatti avait dit non, c'est pas si original, ce sera un fauteuil et puis il faut se débrouiller avec ça. Maintenant débrouille-toi avec ça. Il oppose déjà deux formes de journalisme. Le journaliste, le grand reporter qui part, qui va regarder, qui va chercher. Et celui qui reste dans la rédaction, qui reçoit les choses et qui essaie de réfléchir à partir de ça. Il les oppose pas, disons qu'il met déjà en avant deux façons de faire du journalisme. Après, on a les lecteurs du journaux qui arrivent et qui disent, voilà, nous, on est important parce qu'on est les lecteurs. Donc, un journal, ça a des lecteurs, des abonnés, des gens qui payent le journal, et qui veulent, et qui l'interprètent, qui interprètent tout ce qui est écrit. Et puis, juste derrière, il y a les personnages des articles qui disent mais nous on est les articles et nous on a été interprétés par des journalistes. Donc en quelques minutes, on a déjà un truc qu'on lit tous les jours. On se dit voilà, c'est simple, c'est facile, et tout à coup on a toute la complexité de ce que c'est, de ce qu'est un journal. Donc on se dit alors, attention, c'est quoi cette histoire? Attention, qu'est-ce que je fais quand je lis le journal? Oh là là. Faisons attention en fait à ce qu'on lit. Effectivement, tout à coup, ce baluchon qui se promène à travers toute la pièce, c'était cette histoire-là, cette question-là de comment est-ce qu'on va aborder la réalité, que ce soit en l'écrivant, que ce soit en la lisant, que ce soit en la recevant, comment on fait pour aborder la vérité. On croit toujours qu'elle est là, qu'elle est simple, et en fait, elle n'est pas. À la fin, justement, un des journalistes dit ce que vous attendez de nous, c'est que, je ne sais pas si je me rappelle exactement les mots, c'est que nous soyons des cantonniers traçant une route au milieu du maquis de la réalité. Dans cette réalité, il ne doit rester que le soleil de la vérité, totalement décodé. Il dit, c'est ce que vous attendez de nous, c'est ce que Gatti ne veut pas faire. Et c'est vrai que quand on pense maintenant à comment on vote, par exemple, alors on a des Sarkozy, on a des Berlusconi, mais à gauche c'est pas mieux. Des gens qui nous disent mais on a des solutions toutes simples, faciles, vous allez voir ça va marcher, et ça marche jamais parce que le monde n'est pas comme ça et on n'a pas des solutions simples.
C'est un texte qui est éminemment dialectique et poétique. C'est vrai que par exemple Guy Debord, qui a beaucoup écrit sur la société du spectacle, avait un style qui était inspiré par Clausewitz, par de grands auteurs à la fois du XVIIIe et du XVIIe siècle, dans la rigueur qui était donnée. Si on reprend simplement la scène finale entre ces deux journalistes, l'un armé d'une raquette appelée Fait divers, l'autre muni d'une autre raquette appelée Histoire, et qui font un match imaginaire comme dans le blow-up d'Antonioni, un match de tennis qui nous ramène à une certaine actualité. En même temps, je crois que la structuration même de la pièce est autour, cette réflexion, une partie d'entre elles, par rapport au langage journalistique, sur la manière ou non, non pas d'opposer, mais de marier, ou peut-être de trouver des correspondants entre Faits divers et Histoire. Juste une chose, Balzac, qui lui a été journaliste sous la monarchie de Juillet, donc où la presse était complètement sous la coupe des puissances de l'argent, ce qui nous ramène aussi à notre temps pour une grande partie d'entre elles, lui disait que le fait divers, c'était l'histoire qui s'écrivait au quotidien. Sur cette manière de marier fait divers et histoire, qu'est-ce que vous avez comme réflexion par rapport au texte de Gatti?
On n'est jamais autant dans la société d'un moment qu'en regardant le fait divers. C'est-à-dire que ça dévoile tout. Et si on regarde toutes les façons dont le fait divers est traité, on a toutes les tensions d'une société. Si on regarde l'ensemble, c'est ce qu'il nous raconte un peu là, le fait divers pour l'un. Ça va être l'homme riche mais qui a été courageux, qui s'est défendu, enfin, avec tout le monde qui était derrière lui. Pour l'autre camp, c'est complètement autre chose. C'est la manipulation de la CIA, la manipulation du pouvoir. Ce qui concerne le fait divers de l'histoire de Patricia Hearst, qui est effectivement un moment de l'histoire, mais qui de par son traitement, puisque c'est aussi le traitement qui fait le fait divers ou l'histoire, et qui de par son traitement rentre complètement dans la catégorie à un moment du fait divers. Entre les deux, c'est vrai que des historiens travaillent beaucoup à partir de faits divers pour reconstituer une époque, pour comprendre une époque. Le lien entre les deux, il est sans cesse là et fondamental.
Mais par rapport à Patricia Hearst, justement, une des versions finales qui sera retenue, semble-t-il, par Libération, c'est celle de faire de cette fille de milliardaire une espèce d'aventurière en quête d'un safari de guérilla, en quelque sorte, qui aurait elle-même été peut-être en manque d'émotions fortes. Alors, c'est pas uniquement la version, mais il est vrai qu'on passe beaucoup quand même dans cette pièce de réflexion sur cette action, et notamment avec un certain nombre de comparses qui ne sont peut-être pas très familiers au public qui découvre la pièce. Qu'est-ce que vous en avez justement retenu de cet épisode de Patricia Hearst, qui est aussi une manière peut-être de mettre en lumière ou de disséquer l'idée révolutionnaire, une certaine phraséologie également.
Alors là, il y a beaucoup de choses. D'abord, lui, quand il écrit, elle vient d'être arrêtée. On ne sait absolument rien. On ne sait pas beaucoup plus non plus, parce que tous les gens de l'armée de Saint-Bénès de Libération, si on écoute ce qu'ils disent, certains ont été condamnés, d'autres ont été condamnés, mais le procès a été révisé, donc ils ont été relâchés, certains n'ont pas été condamnés, donc ils peuvent de toute façon pas dire la vérité. Pour ce qui est de Patricia Heur, elle a fait des livres, des émissions de télévision derrière, donc il y a plein de... Donc on sait plus de choses que Gatti n'en savait à l'époque. Il se trouve que dans les choses qu'on a vues d'elle, il y a certaines des versions qu'il propose, c'est-à-dire effectivement la fille de riche qui part pour un safari et qui... On voit par exemple une émission, un talk show où elle revient au plein milieu des lumières du talk show, très maquillée et vraiment en star. Qu'est-ce que c'est ? De nouveau, on est dans un rapport au temps. Qu'est-ce que c'était la Patricia Hearst au moment où elle a intégré l'armée saint-bénoise de Révolution et de Libération ? Et qu'est-ce que c'est la Patricia Hearst 5 ans ou 10 ans après ? Est-ce qu'elle le sait elle-même ? Donc on reste toujours dans le mystère. Ce qui est intéressant avec ce groupement, c'est qu'ils n'avaient pas forcément la rigueur qu'avait la Rothea armée. C'était un espèce de mélange complètement étrange de féministes, de reprise justice, d'intellectuels. Enfin, il y avait quelque chose de complètement... En plus, aux États-Unis, où ils ont un peu tout mélangé, donc il n'y avait pas forcément une rigueur. À un moment, au moment où ils demandent qu'on nourrisse les pauvres de Californie en échange de la libération de Patricia Heur, ça devient Robin des Bois. Hein. Ils ont un soutien populaire absolument énorme. Après, ils ont quand même fait des conneries, ce qui fait que le soutien populaire est parti. Ils en avaient fait avant aussi. De nouveau, c'est très compliqué. Gatti a été très proche de Ulrike Meinhof. Ils ont été extrêmement proches. Moi, je pense même qu'il était amoureux d'elle. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre eux. C'était avant qui intègre la Rothea Armee Fraktion. Lui, après, lui a écrit qu'elle s'était trompée. Puis il la soutenait, mais pour lui, il s'était trompé. Alors, il utilise cette histoire de groupe armé révolutionnaire pour poser la question de ce que c'est justement une révolution. Effectivement, on s'est toujours retrouvé dans les révolutions qu'on a eues jusqu'à maintenant avec un moment... on refaisait la même chose qu'avant. Parce que tout à coup, il fallait faire aboutir la révolution, il fallait forcer les gens à faire des choses, et on se retrouvait dans un système tout aussi autoritaire qu'avant, où à un moment, c'est dit dans la pièce d'ailleurs, parce que il nous donne toutes les versions, mais il en défend quand même une un peu plus que les autres, c'est celle du Loubard, qui lui refuse tout et qui refuse l'usine. Et Loubard dit, mais de toute manière, vous, dans votre quand vous aurez fait votre révolution, vous me mettrez dans l'usine. Comme les capitalistes veulent me mettre dans l'usine, donc de toute façon tout le monde me met dans l'usine. Et le problème c'est l'usine. C'est pas, c'est même pas ce qu'on fait de l'usine, c'est l'usine. C'est un anarchiste et pose la question de comment faire autrement, comment aller chercher autrement. Et c'est vrai qu'il voit le révolutionnaire dans le loupard qui refuse tout, dans les gamins qui allaient faire des graffitis à New York. Voilà, c'est là qu'il voit la révolution. Il adore Macno. Et Macno, il commence comme ça, lui qui se disait illettré. Alors c'est très beau pour un illettré. Commence comme ça, prolétaires du monde entier, unissez-vous, et ensuite il continue, descendez dans vos propres profondeurs, cherchez-y la vérité, inventez-la, vous ne la trouverez nulle part ailleurs. Et c'est vrai que Gaëtis, c'est quelqu'un qui répète souvent cette phrase.
Donc, ce qu'on retrouve peut-être d'une autre manière décalée, il y a dans ce personnage d'une force de guérilla colombienne...
Camilo Torres, il a fait un dictionnaire. Il y avait une colonne avec le mot pour le riche, une colonne avec le mot pour le pauvre. Le sens du mot pour le riche, le sens qui avait le même mot pour le pauvre. Ce qui est déjà formidable en soi. Parce qu'on rentre dans la complexité du monde comme ça. Et à un moment, il a dit, il faut faire une troisième colonne où on avance d'un sens qui dépasse ces deux sens-là. Alors c'est la dialectique, mais c'est une façon poétique tout à coup de poser la dialectique. Et je crois que c'est que Gatti, comme Macno, comme d'autres, c'est ça. C'est que à un moment, c'est la poésie qui va faire qu'on a une chance de s'en sortir. Juste avant ça, il y a une scène où tout à coup, comme tout le monde est allé chercher asile sur une autre page du journal, parce que l'armée symbionnaise Libération a mis en place son dogme, donc on est aussi en pleine allégorie du monde sur ce journal et sur ces pages de journaux, il y a tout à coup un débat à l'intérieur de l'armée symbionnaise de Libération, et tout à coup un des membres de l'armée symbionnaise de Libération commence à voir les choses autrement. Et on se retrouve dans un moment, c'est le fils de Gatti qui disait ça, Stéphane Gatti, c'est un moment où l'intelligence prend le dessus sur le militantisme. Elle revient à des choses toutes simples, toutes terre à terre, et en gros ce qu'elle dit c'est plutôt que de transformer le monde, essayons de changer les consciences.